Bonjour à tous. Marie-Josée Christian est originaire du Morbihan. Elle vit aujourd'hui à Quimper, dans le Finistère, où elle est enseignante. Responsable de la revue Sperret Gouez, elle est également critique et collabore régulièrement à la revue Armen. Au micro d'Étienne Gache, elle évoque son dernier recueil de poésie, Un monde de pierre, aux éditions Sauvage.
Marie-Josée Christian, bonjour.
Bonjour.
Et merci donc d'avoir accepté de venir un peu sur les ondes de Radio Alternante FM. Alors avec toi, on arrive dans le Finistère, puisque je crois que tu travailles à Quimper.
Je travaille à Quimper, mais ma ville de cœur, c'est Carhaix, centre-Bretagne.
Voilà, c'est la ville de cœur pour beaucoup de gens, hein. Il n'y a pas que les vieilles charrues à Carhaix.
Non, effectivement, il y a aussi un grand festival du livre depuis, voilà. Depuis 1989.
C'est là d'ailleurs que nous avons fait connaissance, ça fait un petit moment, hein. Ça fait un quart de siècle aussi, si je ne me trompe pas à peu près, que tu as lancé une revue de poésie.
Oui, Sperret Gouez, l'esprit sauvage.
Voilà.
Donc oui, ça fera 25 ans l'année prochaine exactement.
Et la première fois que j'ai vu ces livres, enfin ce livre à l'époque, il y en a un par an, c'est ça ?
Un par an qui sort à l'occasion du festival du livre de Carhaix, justement.
Voilà, c'était à Carhaix, oui. Alors, j'ai vu qu'en gros, tu es éditrice, poète, critique, tu participes à des jurys, à des directions d'ouvrages, ça fait beaucoup. Où est le plus important, là?
Oui, mais tout ça se tient, je pense. L'écriture est quand même un exercice très solitaire. Donc, à côté, on a besoin d'aventures collectives.
Alors, c'est vrai qu'effectivement...
Ça nourrit l'écriture et ça sauve un peu d'une tendance au nombrilisme qu'on pourrait avoir facilement, je pense.
Ah, c'est possible, la solitude, le nombrilisme, ça va peut-être ensemble. Je sais aussi qu'à côté de ça, tu travailles, si j'ai bien compris, tu es enseignante.
Oui, j'étais, là je ne le suis plus depuis la rentrée, hein, suis en retraite, mais c'est vrai que j'étais donc institutrice et pendant 17 ans j'ai même été directrice d'école en plus. Mais c'est pas forcément quand on a le plus de temps qu'on écrit le plus. Je crois que parfois dans l'urgence, on a vraiment besoin de cette bouffée d'air et donc on la prend, quoi.
Donc on prend le temps d'écrire en fait. On mange.
Oui, voilà, l'écriture s'impose.
L'écriture s'impose.
Oui, voilà, oui.
Alors ce que je voudrais te demander avant toute chose, c'est qu'est-ce qui t'a motivé quand tu étais jeune à aller vers une vie grandement consacrée comme cela à l'écriture et notamment à la poésie?
Peut-être l'école, parce que dans ma famille... Pas du tout, hein. On n'avait même pas de livre. Le seul livre, c'était le dictionnaire Larousse. Hein.
Ah oui.
Mais j'étais dans une petite école de campagne, une classe unique. Et donc, l'institutrice devait s'occuper de tous les cours à la fois. Et donc, quand on a fini ce qu'on devait faire, on écoute, hein, les cours d'à côté. Et à l'époque, les textes de dictée étaient de beaux textes de littérature. Et donc, la dictée était quotidienne, puisqu'il y avait une section du certificat d'études dans cette classe unique, et que les élèves ne devaient pas faire plus de 5 fautes dans la dictée, sous peine d'élimination.
Ouais,
donc
ouais.
Il y avait un entraînement vraiment quotidien. Et je crois que c'est comme ça. Puis certains textes aussi, la rencontre avec certains textes poétiques pendant mon enfance. Voilà, donc au départ, on écrit un peu par imitation.
Alors c'était un peu
et
la
puis
question...
après, on trouve sa voix propre.
Voilà, c'est un peu la question que je voulais te demander, si tu avais des préférences un peu. Tu avais des auteurs ou des... Oui, c'est ça, voilà, des auteurs.
Ah, je crois que chaque lecture a apporté sa petite goutte d'eau, quoi.
Mmh.
Donc, je me souviens qu'au collège, j'aimais beaucoup les poètes parnassiens. Hérédia, le comte de Lille.
Mmh.
J'ai eu une période aussi Chateaubriand, donc je crois que c'est en troisième. Mais surtout le déclic, ça a été Armand Robin, découvert grâce à un professeur de France de lettres, donc en classe de seconde. Le programme, c'était la Renaissance, le 17e. Et de temps en temps, il nous faisait une petite parenthèse et il nous faisait découvrir d'autres textes. Et là, il nous avait proposé de lire 5 textes d'Armand Robin et puis de faire un collage, ne pas faire donc de dissertation classique. Et donc j'ai découvert les deux en même temps. Donc j'ai continué à faire du collage, et Armand Robin, ça a été pour moi une grande révélation. Il n'a plus quitté depuis. D'abord parce que c'est quelqu'un qui venait du centre Bretagne comme moi, et d'une famille pauvre. Et donc il a un peu légitimé le fait que j'avais le droit d'écrire. Voilà, donc ça a été très très important pour moi.
Le droit d'écrire?
Oui, parce que pour les poètes qu'on nous présentait donc à l'école, ils avaient tous, ils étaient tous de familles très aisées, privilégiées, et donc
des nobles parfois. Hein.
Oui, voilà. Donc je n'imaginais pas l'exemple typique Chateaubriand. Quoi. Mm. Et donc je n'imaginais pas avoir le droit moi d'écrire.
Ah, pas parce que tu étais une femme, parce que tu étais pauvre.
Aussi, les deux peut-être, les deux. Mais disons que l'exemple d'Armand Robin m'a montré que même venant d'une famille très très pauvre, lui avait en plus des parents illettrés, hein, mmh. Donc ça n'empêchait pas d'écrire.
Des voyous extraordinaires également.
Oui, voilà. Oui,
comme François Villon dans le temps.
Oui, voilà, aussi. Oui.
On utilisait la poésie également pour s'exprimer.
Oui, voilà, oui.
Alors, puisqu'on parle de Bretagne, est-ce que tu es bretonnante?
Oui, je suis bretonne de naissance, dans la mesure où ma grand-mère ne parlait pas du tout français. Elle ne parlait que le breton, et donc j'ai appris comme ça, voilà. Donc c'est un breton... à la limite Morbihan-Finistère, donc c'est un breton cornouaillais, mais avec beaucoup d'accent vannetais.
Et tu écris aussi un peu
Non, justement, non, je suis illettrée dans ma langue. donc je l'ai parlé quand j'étais, tant que ma grand-mère était vivante, donc jusqu'en 76, mmh. Je le parlais couramment. Après, bon, ben, j'ai eu l'occasion de moins en moins. J'ai beaucoup de mal à le lire, et puis encore plus de mal à l'écrire.
Oui, donc tu te lances pas dans l'écriture alors que tu ne maîtrises pas suffisamment.
Oui, voilà, je n'ai pas le vocabulaire, puisque j'ai le vocabulaire acquis avec ma grand-mère. Donc un vocabulaire de petite fille, un vocabulaire de vie quotidienne, voilà. Et
ben là, tu prêches un convaincu. Hein, moi, ma grand-mère alsacienne ne parlait pas le français.
Oui.
On est au debout de l'hexagone, là.
Oui, voilà.
On a
oui,
un peu
oui.
ce genre de même problème, quoi.
Mais bon, par elle, j'ai compris aussi ce que ça pouvait être, la douleur d'être étranger dans son propre pays. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle avait une démarche administrative à faire,
oui.
elle était obligée d'avoir un traducteur.
Oui, tout à fait. Oui. C'était le cas encore, effectivement, également en Alsace, Moselle. Bon, c'est le cas dans pas mal d'endroits, de toute façon. C'était le cas dans pas mal d'endroits encore, dans la première moitié du XXe siècle, en tout cas.
Par contre, elle m'a appris à regarder autour de moi, à regarder la nature. Elle connaissait tous les noms de plantes. D'arbres, etc., en breton. Et ce sont des mots très beaux, des mots très, très imagés. Alors qu'en français, c'est des mots d'origine latine qui n'ont aucun sens affectif.
Mais là, avec la retraite, tu vas pouvoir apprendre à traduire tes poèmes, alors ça va être...
Oh, j'ai des traducteurs, hein. Donc il y a Gilles Pennec qui m'a traduit toute une suite de textes sur Carnac.
Oui, j'ai vu ça d'ailleurs dans le dernier livre, Un monde de pierre, tu as effectivement ces oui, textes en breton. D'ailleurs, oui. tu participes aussi à des travaux collectifs ou à des éditions collectives avec des traductions, et toi-même, tu es traduite.
Oui, voilà, oui.
Donc c'est une ouverture quand même sur d'autres, en tout cas sur un autre lectorat, on ne va pas dire sur une autre forme d'expression, parce que ça aurait du sens si on comprend ce qu'on lit. On le comprend parce qu'on l'a écrit, mais ce qui est important en tout cas dans la poésie, c'est ce côté un peu international, si on veut.
Oui, je me sens parfois beaucoup plus proche de poètes amérindiens. Finalement, on exprime la même chose, il y a la même émotion, la même sensibilité.
Émotion révolte parfois.
Oui, aussi, oui. Révolte et puis réflexion. Parce que dans la poésie rassemble à la fois l'esprit et l'émotion, le sens et la sensibilité. C'est un petit peu au sommet de toutes ces sensations-là.
Et tu parlais des plantes, alors on va peut-être rentrer dans un monde de pierre, puisque c'est ton dernier ouvrage.
C'est pas le dernier, non. C'est une nouvelle édition augmentée. En fait, ce livre est déjà paru en 2001 aux éditions Blanc Silex, et il a eu le prix poésie de l'AEB, l'Association des écrivains bretons, en 2002. Mais l'éditeur ayant fait faillite en 2005, il n'était plus disponible. Donc là, j'en propose une nouvelle version augmentée, avec des textes que je n'avais pas encore écrits à cette époque-là. Et puis le plus, c'est aussi la traduction de Gilles Pennec, de la suite sur c'est Carnac, ça, ouais. En breton.
Alors moi, j'avais envie de dire que c'est un peu de la géopoésie. Tu nous emmènes dans pas mal d'endroits.
Oui. Oui, mais je fais partie aussi de l'Institut international de géopoétique qui a été fondé par Kenneth White.
D'accord.
Qui est écrivain écossais et qui est basé en Bretagne, à Trébordin. Donc, et qui a fondé cet institut-là, qui relie le langage à son environnement et qui travaille beaucoup sur la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité. Voilà. Et ça m'intéresse beaucoup.
Alors, il y a quelque chose qui m'avait un peu surpris quand j'ai vu un monde de pierres. Je me suis dit, ça va être des pierres précieuses. En fait, on est dans les mégalithes, là, on est dans les tonnes de pierres.
Oui, oui.
On n'est plus dans la petite pierre qu'on met à sa bague.
C'est un peu un Trowbridge, oui. Avec une petite incursion en Irlande, quand même. Donc, sur un Trowbridge des mégalithes, oui.
Oui, j'ai vu que tu n'as pas oublié, d'ailleurs, la Loire Atlantique avec Pornic.
Oui, 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 c'est un des textes les plus récents. Il n'appartenait pas au premier ensemble.
D'accord. On est aussi à un bon moment dans le golfe du Morbihan. Alors, c'est une question que je voulais te poser. Moi, j'aime beaucoup aller sur les îles, notamment sur Belle-Île. Est-ce que tu écris quand tu es sur place ou de mémoire?
Alors, non, je n'écris jamais sur place. Par contre, je prends des notes.
Oui.
Et donc, je retravaille ces notes chez moi quand elles se rappellent à moi. Donc, ça peut mettre énormément de temps. Hein. Je mets énormément de temps à écrire un recueil. Donc, un recueil sur Lascaux et les grottes préhistoriques, j'ai mis 12 ans à l'écrire.
Ah oui.
Donc, un monde de pierre, j'ai mis une dizaine d'années aussi.
Alors, tu mets ça dans un petit coin, ça vient, ça...
Oui, voilà. Je retravaille jusqu'à ce que je sois satisfaite. Quand je ne peux plus rien changer, c'est que le texte est fini.
Tes textes sur la pierre, en tout cas, nous amènent à quelque chose qui, moi, m'a un peu surpris. C'est comme si la pierre avait une mémoire. Elle avait une vie, un souffle.
Oui, j'ai toujours eu cette intuition-là. Et je viens de lire, il y a quelques mois, que des chercheurs avaient découvert qu'effectivement, la pierre était constituée de molécules vivantes.
Alors, par rapport à ces poèmes qui sont très brefs, on a un peu l'impression, en tout cas esthétiquement, sur la page, qu'on est avec un peu la poésie japonaise, la Daiduk. Non ? Est-ce que ça a une influence sur...
Non, j'ai découvert les haïkus assez tard, j'écrivais déjà comme cela, et puis les puristes diront que ce n'est pas des haïkus.
Ah non, ce ne sont pas des haïkus.
C'est totalement vrai, mais c'est vrai que j'aime bien lire aussi, mais j'aime bien la poésie très épurée, oui. Parce que moins il y a de mots, plus le lecteur peut trouver de sens. Pour moi, la poésie, elle doit avoir plusieurs sens, plusieurs niveaux de lecture. C'est pour ça qu'elle est inépuisable. On peut lire, relire des textes de poésie et trouver à chaque fois quelque chose de nouveau.
C'est-à-dire, tu laisses le lecteur avec sa propre sensibilité.
Oui, c'est le lecteur qui fait son chemin, finalement. Et il fait son chemin autant de fois qu'il le lit, selon son humeur du jour.
Alors, je vais rappeler le titre du livre et ensuite, on va venir à deux, trois autres questions plus générales, si tu veux bien. Donc, ton livre, c'est Un monde de pierre, Marie-Josée Christian, aux éditions Sauvages.
Oui, les éditions Sauvages.
Et pour l'acquérir, On peut. Est-ce qu'il est diffusé par un grand diffuseur ou...
Alors, il est sur le catalogue, enfin la base de données Electra,
oui.
Dont se servent les libraires.
Tout à fait.
Donc, les libraires peuvent commander hein, sans problème. Et sinon, on peut commander directement aussi. On trouve tous les renseignements sur le site.
D'accord.
Les éditions sauvages.
Éditions sauvages. On vient donc à une question à laquelle je tiens un peu pour notre émission, et surtout parce que même sur Radio Alternante, on parle beaucoup de livres, et c'est vrai que la poésie, ça vient de temps en temps, mais pas systématiquement. Mais aujourd'hui en Bretagne, que ce soit en langue française, en langue bretonne, ou bien que ce soit des poètes traduits qui viennent donc de n'importe où dans le monde, est-ce que tu penses que la place de la poésie, elle est vraiment visible dans l'édition? Est-ce qu'il y a vraiment une édition, et est-ce qu'il y a vraiment un lectorat?
Alors, il y a deux choses. Peut-être qu'elle n'a pas toute la place qu'elle devrait avoir. Mais c'est aussi dû, je pense, à un manque de lisibilité, qui à un certain hermétisme qui nous est parvenu via la poésie prisée. À Paris, hein, dans les années 60, et donc on en paye encore les conséquences. Mais quand on rencontre son public,
oui.
Je pense qu'il y a une audience, il y a un renouveau notamment de la poésie orale, la poésie lue, les lectures de poésie.
C'est donc
ça, c'est intéressant, et il y a donc beaucoup de petites maisons aussi d'édition hein, qui survivent et qui vendent finalement. Finalement, on vend quand même pas mal. Il y a des livres de poésie qui se vendent à 500 exemplaires facilement. Hein.
Donc, ah, c'est bien, oui.
Disons que ce sont des livres à rotation longue.
Oui, c'est ça. Lorsque le livre existe, il va, oui. Même s'il se vend pas au bout de 3 mois, il existe
oui.
Encore un an
Par
après.
Par contre, hein. Le problème, ce sont les librairies qui n'accueillent pas ces livres-là.
Oui.
Voilà, parce qu'il faut une rotation des stocks, etc. Mais on vend bien sur les salons également.
Et puis c'est l'occasion de se faire voir aussi, de se faire connaître.
Oui, hein. Voilà.
Alors,
oui.
C'était la question que je voulais te poser. Le rôle des salons, pour toi, c'est important. Et ce qui est important aussi, je pense que c'est de durer dans le temps. C'est pas d'arriver un jour avec un livre en pensant qu'on a tout cassé. C'est un travail de longue haleine.
Oui, c'est un travail de longue haleine, oui. Oui. Par exemple, mon livre « Conversation de l'arbre et du vent ». Qui est sorti donc aux éditions Tertium, donc c'est une moyenne maison d'édition dans le Lot. Donc il est sorti en 2008 et il y a eu plusieurs retirages et donc il s'en est vendu déjà 650 exemplaires.
Ah oui,
c'est... Ce qui est quand même un best-seller en poésie.
Quoi, oui,
parce
c'est vrai.
Que l'éditeur fait un réel travail.
Oui, oui.
Et le livre a été sur la liste de référence de l'éducation nationale en 2013, donc quand même pas mal d'années après sa sortie.
Mmh.
Et je continue à en vendre régulièrement, et la maison d'édition aussi. Voilà, donc,
Mais c'est très bien. Justement, tu as obtenu plusieurs prix, donc on ne va pas revenir sur tout cela, mais ce que je voudrais savoir par rapport, hein, par exemple, si des jeunes poètes, hommes ou femmes, nous écoutent, qu'est-ce que tu leur conseillerais de participer à un concours, de se produire, de faire des lectures publiques, d'auto-éditer leurs œuvres, d'aller vers des éditeurs?
Alors d'abord, publier dans les revues.
Publier dans les revues?
Ah oui, oui. Parce que c'est un vrai laboratoire. D'abord, on est lu par un comité de lecture.
Oui.
Et moi, personnellement, j'ai publié une bonne dizaine d'années uniquement en revue, avant de proposer un recueil. D'ailleurs, c'est même pas comme ça que ça s'est passé. C'est une revue dans laquelle je publiais régulièrement, qui publiait également 2 recueils par an, qui m'a demandé si j'avais pas un recueil à leur proposer.
Mmh.
Et je crois que c'est très formateur, et puis ça permet de se confronter à d'autres,
ça,
à des lecteurs, hein, voilà. Et puis un compagnonnage entre gens connus et gens inconnus hein, dans
oui,
les
oui.
revues, et bon, c'est intéressant.
Bon, mais avant de nous quitter, puisqu'on est arrivé au bout du moment que l'on devait passer ensemble, je voulais quand même te demander si tu as d'autres projets.
Des projets, oui, ça foisonne toujours, mais je ne sais jamais quel projet va aboutir en premier. J'ai toujours quelques recueils en chantier. mais je ne sais jamais lequel, lequel finira en premier, lequel, ouais, lequel trouvera un éditeur, etc. Donc,
On peut peut-être donner ton contact par internet pour.
Oui, donc j'ai mon site internet. Oui. Hein.
Ben vas-y.
Donc c'est Marie-Josée Christian attaché point mon site tiret orange.fr.
Voilà.
Et donc il y a le site aussi de la revue Spirit Goué, pareil Spirit Goué attaché mon site tiret orange.fr.
Eh bien, en tout cas, j'espère que nous avons.
Et donc on peut me trouver sur voilà. les salons et donc j'ai une page actualité sur mon site où je précise les salons où je suis présente.
D'accord. Eh bien, en tout cas, bon vent pour la poésie.
Merci beaucoup.
Et merci à toi. Au revoir, Marie-Josée.
Merci. Au revoir.